Les grands titres de ce samedi 20 janvier. À Melbourne, on souligne le premier anniversaire de l'attaque à la voiture bélier du Bourke Street Mall qui a fait 6 morts. En Nouvelle-Galles du Sud, où il fait très chaud, le service d'incendie demande aux habitants de l'État d'être vigilants. Et aux États-Unis, il ne reste que quelques heures pour trouver un accord pour éviter un shutdown de l'État. La députée des Verts du Victoria, Lydia Thorpe, a dit être victime de menaces de mort et de viol depuis qu'elle a suggéré que les drapeaux soient mis en berne le jour de la fête nationale pour reconnaître les crimes commis contre les aborigènes. Lydia Thorpe est la première députée aborigène au Parlement du Victoria. Elle a dit à ABC que ces menaces n'allaient pas l'arrêter.
And I'm not going to back down from the message that I'm trying to send out there to the people of this country. You know, we need to deal with the true history of this country.
La députée des Verts du Victoria, Lydia Thorpe. À Melbourne, on souligne aujourd'hui l'anniversaire de l'attaque à la voiture bélier du Bourke Street Mall, qui a fait 6 morts il y a un an. Le premier ministre du Victoria, Daniel Andrews, va se joindre aux familles des victimes pour un service commémoratif privé. Un événement public aura lieu mardi. En Nouvelle-Galles du Sud, le service d'incendie demande aux habitants de l'État de s'assurer que leur plan en cas d'incendie soit prêt, alors que les températures sont très élevées ce week-end. Plus d'une douzaine de feux brûlent en ce moment. Il est recommandé aux habitants de l'État de rester informés de la situation. James Morris, porte-parole des services d'incendie de Nouvelle-Galles du Sud, a dit que d'avoir un plan était nécessaire.
That doesn't necessarily have to be a written plan. It's about discussing what you will do in the event a fire threatens with your family, especially around school holidays, where we see potentially kids at home. While the parents are out working, we tend to see roads closed fairly quickly when it comes to bushfires.
James Morris, porte-parole des services d'incendie. Aux États-Unis, le compte à rebours est commencé. Il ne reste que quelques heures pour trouver un accord avant vendredi minuit, heure de l'Est. Passé ce délai, ce sera le shutdown, la paralysie de l'État américain, si un budget provisoire n'est pas adopté. Aux États-Unis, Éric DeSalve.
L'heure tourne jusque sur les écrans des chaînes d'information. À la seconde près, une horloge fait le décompte avant l'heure butoir de minuit. Passé ce délai, ce sera le scénario auquel toute la classe politique le semble ici se préparer, celui du shutdown, celui de la paralysie des États-Unis. À la Maison-Blanche et au Sénat, les négociations se poursuivent pour éviter ce scénario et voter le budget fédéral, mais elles semblent toujours dans l'impasse. Elles bloquent notamment sur les questions d'immigration. Les démocrates veulent une poursuite du DACA, ce programme de régularisation des 700 000 étudiants étrangers arrivés sans papier aux États-Unis. En échange, Donald Trump exige le vote de budget pour construire son mur anti-immigration le long de la frontière mexicaine. Pour rappel, les républicains disposent d'une courte majorité au Sénat, 51 sièges sur 100. Or, pour voter le budget du gouvernement, il leur faut une majorité qualifiée de 60 voix. Résultat, la paralysie administrative se profile de plus en plus aux États-Unis. Le dernier shutdown remonte à 2013. Il avait duré 16 jours. Concrètement, à l'époque, 850 000 employés fédéraux s'étaient retrouvés en congé sans solde au chômage technique et ce shutdown avait coûté entre 2 et 6 milliards de dollars.
C'était Éric DeSalve pour RFI. Toujours aux États-Unis, le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, a déclaré que le terrorisme ne sera plus la priorité des États-Unis en matière de sécurité nationale. Le principal enjeu de sécurité pour les Américains serait l'influence grandissante de la Chine et de la Russie. Jim Mattis affirme qu'il faut contrer l'influence négative de Pékin et Moscou.
We face growing threats from revisionist powers as different as China and Russia are from each other. Nations that do seek to create a world consistent with their authoritarian models.
Le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dit que l'Afghanistan continuerait de faire face à des défis en matière de sécurité au cours des prochains mois et des prochaines années. Il a dit que de se défendre contre ces menaces à la sécurité était un processus complexe.
Responding to these threats cannot be responsibility of the Afghan government alone. Effective counterterrorism relies on regional and multilateral cooperation based firmly on human rights.
La Russie a affirmé que le nord du pays se transformait en base pour le terrorisme international dirigé par l'aile afghane du groupe État islamique. Les États-Unis ont dit qu'ils ne laisseraient pas l'Afghanistan devenir un refuge pour les terroristes, soulignant l'importance de tenir des élections parlementaires et présidentielles. En France, ils sont 5 à convoiter la tête du Parti socialiste. Delphine Bateau, Luc Carvounat, Emmanuel Morel, Stéphane Le Foll et Olivier Faure. C'est ce dernier qui est en pole position pour prendre les rênes du PS. Marine de la Moissonnière nous en dit plus.
À une semaine de la clôture des candidatures dans la course à la tête du PS, Olivier Faure semble faire la course en tête. Rejoint par plusieurs élus locaux, il a enregistré hier un soutien de poids, celui de la maire de Lille, Martine Aubry, l'ancienne première secrétaire qui compte toujours au sein du parti, même si elle a perdu de son influence ces derniers temps. Aujourd'hui, c'est avec le jeune premier secrétaire de la Fédération de Haute-Garonne qu'Olivier Faure s'est affiché. Le patron des députés socialistes à l'Assemblée est en train de mener une opération séduction auprès de la nouvelle garde, sans pour autant négliger les historiques du parti. Face à lui, les 4 autres candidats semblent à la peine. Stéphane Le Foll reste trop identifié au quinquennat précédent et n'a pour l'instant le soutien que des barons de la Hollandie. Luc Carvounas et Emmanuel Morel tentent de tirer leur épingle du jeu en prônant un dépassement des clivages. Quant à Delphine Bateau, elle entend participer à un congrès dont elle critique ouvertement les modalités d'organisation. Les tractations se poursuivent en coulisses. Les candidats ont jusqu'au 27 janvier pour déposer leur motion. Les élections se tiendront les 15 et 29 mars.
Marine de la Moissonnière pour RFI. La Serbie et le Monténégro seront probablement les prochains pays à joindre l'Union européenne d'ici 2025. L'UE a lancé un effort pour accélérer l'adhésion des 6 pays des Balkans après des années d'hésitation. L'Albanie, la Bosnie, le Kosovo, la Macédoine, le Monténégro et la Serbie voudraient tous rejoindre l'UE. Le commissaire européen pour les négociations d'élargissement, Johannes Hahn, a dit que le Monténégro et la Serbie étaient en meilleure position que les autres pays, mais que rien n'était certain.
Today, the most advanced ones are definitely Montenegro and Serbia, but as this whole process is merit-based, depending on the progress the countries are making, it's even too early to predict who will be finally really the first new member state.
Le commissaire européen pour les négociations d'élargissement, Johannes Hahn. Au Bénin, la Cour constitutionnelle a jugé non conforme à la Constitution une loi excluant du droit de grève certains secteurs de la fonction publique. Évidemment, c'est la satisfaction du côté des syndicats. On écoute les réactions de Noël Chadaré, secrétaire général de la Confédération des associations syndicales du Bénin.
La Cour nous a rendu un service immense, au Bénin, à notre pays, à notre démocratie, parce qu'on avait déjà programmé la mort de notre démocratie. Mais la Cour a dit le droit et nous l'en félicitons. C'est un acte salvateur pour notre pays parce que autrement, ce serait un recul. C'est la grève qui a permis que nous ayons la conférence nationale et la grève a été constitutionnalisée. Donc on ne peut pas venir liquider les acquis de notre conférence nationale. Nous allons rester vigilants, veiller au grain, pour que ceux qui n'ont pas obtenu là-bas, ils tentent de l'obtenir autrement.
Noël Chadaré, secrétaire général de la Confédération des associations syndicales du Bénin. Et un mot rapide de tennis pour terminer le journal. Les Français Joe Wilfred Tsonga et Alizé Cornet ont été éliminés hier à l'Open d'Australie lors d'une journée où les conditions étaient très difficiles. On aura leur réaction dans le magazine des sports et on vous dira aussi quel match surveiller aujourd'hui, juste après la météo. Donc à Perth, aujourd'hui, on a un maximum de 34 degrés. Adélaïde, 36. Melbourne, 26. Hobart, 20. Canberra, 38. Wollongong et Sydney, 29 degrés. Newcastle, 27. Brisbane, 31. Cairns, 30. Et à Darwin, 29 degrés. Un rappel des grands titres de ce samedi 20 janvier. À Melbourne, on souligne le premier anniversaire de l'attaque à la voiture bélier du Bourke Street Mall qui a fait 6 morts. En Nouvelle-Galles du Sud, où il fait très chaud, le service d'incendie demande aux habitants de l'État de demeurer vigilants. Et aux États-Unis, il ne reste que quelques heures pour trouver un accord pour éviter un shutdown de l'État.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench